Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont pertinentes, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Il peut arriver qu'une personne soit appréhendée dans un poste frontalier au motif qu'il se livre à la traite des enfants. Cependant, bon nombre de gens se posent la question de savoir à quel moment peut-on parler de la traite des enfants et que dit la loi congolaise à ce sujet. Monsieur Guillaume Allaire, encore une fois bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Vous êtes juriste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traite des enfants?
Oui, la définition que je vais donner est tirée de la loi numéro 09/001. Du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Mmh. C'est une loi qui a été promulguée dans notre pays et qui se veut être le code en matière de protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Alors, à l'article 162 de cette loi portant protection de l'enfant, il est dit que la traite d'enfants, c'est le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des enfants par la menace de recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur l'enfant aux fins d'exploitation. Tout ceci doit être fait aux fins d'exploiter cet enfant.
Mais comment peut-on exploiter un enfant?
On exploite malheureusement les enfants de plusieurs manières. On peut les exploiter pour des fins sexuelles, de prostitution. Et on peut aussi les exploiter pour du travail forcé, c'est-à-dire l'exploitation économique des enfants pour le travail, alors que vous savez que les tout petits enfants, en principe, devraient être à l'école plutôt que d'être soumis à des travaux.
Oui. Ah donc, il semble qu'il existe aussi des réseaux, des gens qui, vous avez parlé du transfert, des gens qui vont quelque part trouver les enfants et les transférer pour aller travailler.
Effectivement, à un moment donné, dans certains pays africains, il y a eu des scandales comme cela, où des organisations, soi-disant internationales, qui voulaient organiser l'adoption des enfants dans leur pays, venaient chercher comme ça des enfants en masse, et facilité par certaines personnes, certaines autorités de ces pays-là, à traiter des avions, aller avec ces enfants-là en Europe. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que ces enfants, une fois arrivés là-bas, étaient utilisés dans des circuits de prostitution, par exemple. Vous savez que malheureusement, il y a des gens suffisamment pervers pour préférer des prostituées mineures. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'enfants, et hommes et femmes, donc jeunes garçons et jeunes filles, qui sont comme ça, et n'est-ce pas, amenés à l'étranger pour aller servir des prostituées, pour des pédophiles de toutes sortes. Donc, il y a même des cas, semble-t-il, ici chez nous, où certains expatriés de certaines nationalités qu'on ne va pas citer ici, lorsqu'ils rentrent chez eux, s'arrangent avec les familles des mineurs qui étaient déjà à leur service ici.
Pour les avec ses enfants,
partir avec comme bonne, c'est-à-dire nounou des enfants et consorts. Mmh. Bon, mais une fois arrivés là-bas, ces enfants déchantent, finalement sont utilisés comme travailleurs au noir, dans les travaux forcés, ou bien parce que les législations là-bas non plus n'acceptent pas qu'on emploie des enfants. Mmh. Et donc, ça se font du travail au noir, et pire, ils sont versés dans des circuits de prostitution. Voilà pourquoi la loi a prévu que les trafics d'enfants ou la vente d'enfants, parce que c'est deux phénomènes voisins, trafic ou vente d'enfants, l'article 162 donc prévoit que c'est des infractions qui sont sévèrement punies dans notre législation.
Alors, donc, trafic ou vente d'enfants. Alors, quand ces personnes viennent adopter les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour quel motif, hein? On les adopte pourquoi?
Bon, vous savez qu'il y a des couples qui cherchent des enfants, il y a des couples, et l'adoption, c'est un des modes, n'est-ce pas, d'affiliation d'un enfant à une famille.
Oui.
Un couple qui n'a pas d'enfant peut recourir à l'adoption justement pour en avoir. Et un enfant régulièrement adopté a exactement les mêmes droits qu'un enfant qui serait né de ce couple-là. Alors, ce problème se pose surtout en Occident, où beaucoup de couples n'ont pas d'enfants et souhaitent en adopter. Alors, il y a des procédures régulières qui demandent de passer notamment par un jugement, etc.
Oui.
Et puis, il y a des études qui sont faites sur la famille d'accueil. Il y a le consentement de la famille de provenance de l'enfant qui est requis. Alors, il y a des personnes qui trouvent que tout ceci est fastidieux et qui cherchent à obtenir ces enfants à part des raccourcis. Et c'est souvent des personnes mal intentionnées au départ qui, sous prétexte de vouloir adopter des enfants, en réalité, font de la traite d'enfants, n'est-ce pas, acquièrent des enfants pour les utiliser, pour les exploiter dans une ou l'autre forme des pires formes de travail de l'enfant.
Alors, et comment on peut arriver à découvrir que cette personne a pris cet enfant pour l'esclavage sexuel ou pour d'autres travaux forcés?
Bon, il faut admettre ici qu'en amont, c'est très difficile, parce qu'au début, là, ils paraissent plein de bonnes intentions.
Oui.
Et profitant, comme ici chez nous au Congo, de la conjoncture économique, de la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles, parce que vous voyez que la loi prévoit que vous pouvez même obtenir cet enfant entre les mains d'une personne qui a une autorité sur elle. Ça peut être son parent, ça peut être un tuteur, mais
vous négociez,
vous lui donnez de l'argent, et souvent ce sont des enfants qui sont mis à la disposition des exploiteurs par des personnes qui ont autorité légale sur ces enfants-là, malheureusement, et qui profitent donc de la précarité, des situations économiques précaires dans lesquelles se trouvent certains pays, pour en fait acheter comme ça à vil prix des enfants.
Alors, monsieur Malher, lorsqu'une personne se présente chez vous pour demander, voilà, je vais adopter votre enfant, alors quelle est la procédure légale à suivre à ce moment-là?
Bon, la procédure légale, c'est de dire d'abord à la personne d'adresser sa requête en bonne et due forme au juge, au tribunal, les grands d'instance, si ma mémoire est bonne. Et c'est le juge maintenant qui est censé mener d'abord une enquête sur la personne qui désire adopter justement l'enfant, pour voir si elle a, on va exiger un certain nombre de documents à produire sur sa bonne moralité, bonne vie et mœurs, etc. Et donc, ensuite, le juge va convoquer la famille de l'enfant, ses parents biologiques notamment, pour vérifier si leur consentement est libre et vraiment éclairé, et ensuite cherchera à savoir quel est l'intérêt supérieur de l'enfant dans cette situation-là. Et donc, s'il appère que effectivement l'enfant s'épanouira mieux dans cette nouvelle famille d'accueil et que sa famille biologique est tout à fait d'accord de céder cet enfant et que cette opération se fait sans qu'il n'y ait trafic, c'est-à-dire vente, et ce n'est pas contre des rémunérations, et bien à ce moment-là, le juge fait un jugement à bonne et due forme et se munit d'un tel document que la personne qui désire maintenant voyager avec l'enfant obtient des titres de voyage pour l'enfant, des titres de séjour pour cet enfant dans le pays d'accueil. Et quand il se présente à un poste frontalier, à ce moment-là, on peut dire que cet enfant a été confié à cette personne-là de la manière la plus régulière parce que l'institution de justice du pays a examiné l'affaire et a délivré un jugement. En dehors de cette procédure-là, tout déplacement d'enfant par des personnes autres que ses parents doit être considéré comme suspect.
Alors, la personne a de bonnes intentions au départ, elle obtient tous les documents qu'il faut. Arrivée de l'autre côté, au pays d'accueil, elle change. Maintenant, on maltraite l'enfant, on l'utilise comme esclave sexuel, et l'enfant n'est plus en communication avec ses parents restés au pays. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, ça c'est vraiment ce qu'on déplore le plus souvent, malheureusement, où l'on fait des situations où l'on fait miroiter et à l'enfant et à la famille de l'enfant des perspectives d'avenir meilleures. Mais une fois sur le terrain, il s'avère qu'on a été l'objet d'escroquerie. Bon, déjà, lorsque c'est une situation où la personne a dû se présenter en justice, a été l'objet d'une enquête sommaire, bon, il y a déjà plus de garanties. Mais il faut aussi déplorer le fait qu'ici, chez nous, au Congo, il n'y a pas encore une autorité indépendante qui s'occupe de l'adoption, comme cela se fait dans d'autres pays où il y a une institution, une autorité indépendante qui s'occupe des cas d'adoption et qui est en contact avec des institutions similaires dans d'autres pays, de sorte que le suivi de l'adopté peut être fait même sur les territoires d'adoption à travers les contacts qu'il y a entre les différentes autorités. assez indépendante de suivi de l'adoption. Ici, chez nous, il n'y a pas une telle structure. Et tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, le domaine de l'adoption d'enfants, font vraiment pression sur le gouvernement congolais pour qu'il puisse initier un texte de loi qui institue un organisme ici sur place,
oui,
qui peut, n'est-ce pas, aider les cours des tribunaux à prendre des décisions éclairées en matière d'adoption, mais qui peut ensuite aider aussi à mener des enquêtes au niveau international, transnational en tout cas, pour savoir si l'enfant, là où il a été amené, est placé dans les conditions qui ont été promises ici par l'adoptant. Donc il y a encore des lacunes au niveau des institutions, mais bon, il y a quand même des institutions comme Interpol, n'est-ce pas, qui peuvent permettre, lorsque des informations parviennent ici, selon lesquelles cet enfant serait finalement placé dans des conditions de maltraitance, eh bien,
et les institutions peuvent aussi avec sa famille,
Oui, malheureusement, c'est ça la faiblesse ici chez nous au Congo. Ce sont des enfants qui viennent de familles très pauvres, n'est-ce pas? Et donc, quand l'enfant part, on lui dit au revoir à l'aéroport.
Donc,
bon, là maintenant, on remet son sort à Dieu, comme on dit.
Les questions et des réactions, appelez-nous au 081-890-63-94.
Découvrez les après-midi de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des vies de femmes et des maladies zigzags. Et enfin, un brin de culture, c'est dans Découvert. Un rendez-vous Radio Okapi pour des après-midi de promeneur. Découvert, de lundi à vendredi, à partir de 13h, à la de Kinshasa.
Moulumba nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jédication.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la fête des enfants?
Oui, j'ai une seule préoccupation.
Oui.
Je vais juste déposer à l'invité. Si un enseignant prend les élèves pour qu'ils aillent travailler chez eux, en dehors des heures de cours, disant qu'il y a le travail manuel, mais ce n'est pas le travail manuel, est-ce qu'on peut parler du stress des enfants?
Monsieur Allaire.
Un enseignant qui amène chez lui des enfants pour les soumettre à des travaux manuels.
Mm-hmm.
Bon, moi je pense que à ce moment-là, il ne faut pas vraiment exagérer. C'est une forme d'exploitation du travail des enfants, mais c'est comme un service que l'enseignant voudrait obtenir des enfants. Je sais que c'est courant dans beaucoup d'institutions scolaires,
oui,
où on fait faire des travaux manuels à des enfants. On pourrait étendre la question même aux mamans qui vont faire des petits travaux à l'église, etc. Bon, je pense que là, l'intention de nuire, vraiment n'est pas établie, mais il n'est pas bon, sur un plan strictement professionnel et disciplinaire, qu'un enseignant, n'est-ce pas, au-delà des heures du cours, dispose du temps des enfants, parce que les enfants sont censés avoir un emploi du temps équilibré entre les études, le loisir et le repos, n'est-ce pas?
Mm.
Et donc, un enseignant qui, après les heures de cours, amène les enfants chez lui pour leur...
Aller puiser de l'eau, aller couper le bois.
Oui. Bon, dans la mesure où d'abord, ce n'est pas un travail permanent, c'est sporadiquement. On ne
c'est,
pas,
un, c'est un abus.
C'est un abus, oui, mais on ne peut pas considérer ça comme une infraction... traite ou exploitation économique des enfants. L'exploitation économique des enfants serait par exemple dans le cas où des parents ou une famille d'accueil d'un enfant soumet celui-ci par exemple à des travaux tels que la vente de pétrole. On lui donne un gros bidon de pétrole par exemple de 5-10 litres en lui disant écoutez, plutôt que d'aller à l'école, on demande à cet enfant de circuler avec ce pétrole là-bas, de le vendre et de ramener le produit de la vente à la famille d'accueil. Ça, on est en pleine exploitation économique des enfants. On le fait travailler dans un travail qui est rémunéré, donc qui rapporte des recettes, mais dont l'enfant ne profite pas, et des recettes qui sont amenées à des tiers. Là, il y a exploitation d'enfants. Donc, ce n'est pas tout à fait la situation de l'enseignant qui, de temps en temps, demande aux enfants de venir balayer sa cour, etc., de fricher son champ, mais sans le faire de manière permanente.
Oui, Moulumba, vous êtes encore en ligne? Voilà, il n'est plus en ligne. Des questions, des réactions, appelez-nous 081-890-6394. Alors, à propos de la fête des enfants, pour une personne qui exploite les enfants de cette façon, on donne un bidon de pétrole pour aller vendre, c'est une infraction. Est-ce que c'est punissable par la loi?
Oui, c'est punissable parce que nous sommes ici en pleine... exploitation donc économique des enfants.
Oui.
Nous sommes ici dans ce que la loi appelle les pires formes de travail de l'enfant, qui sont prohibées dans notre pays, déjà par le code du travail qui interdit que l'on puisse soumettre je crois que c'est l'article 3 hein, de notre code du travail, qui dit qu'on ne doit pas soumettre l'enfant aux pires formes de travail des enfants. Et qui dit qu'en deçà de 15 ans, eh bien, tout travail d'enfant est vraiment interdit. Nous sommes donc là dans des hypothèses d'exploitation économique de l'enfant, qui est interdit par notre code du travail, et qui est sanctionné à ce moment-là par des peines.
Nous savons d'ailleurs qu'il y a même des enfants qui travaillent dans les carrières des mines, dans le Katanga, et ça, c'est une forme d'exploitation.
Oui,
sanctionné par la loi.
Oui, oui, tout ça est sanctionné par la loi. Alors, nous avons ici l'article 162, dont nous parlions tout à l'heure, de la loi portant protection de l'enfant, qui dit carrément que la traite ou la vente d'enfants est punie de 10 à 20 ans de servitude pénale, c'est-à-dire de prison, ainsi que d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. Donc, vous voyez que la traite d'enfants, hein, n'est-ce pas, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil des enfants, par la menace, la ruse et autres, aux fins d'exploitation, eh bien, c'est sévèrement puni. Nous sommes dans des sanctions de l'ordre de 10 à 20 ans de prison. Donc, c'est dire que le législateur fait tout pour protéger l'enfant, comme l'intitulé de la loi l'indique, la protection de l'enfant.
Rupin nous appelle de Mali, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à notre invité.
Rissam, vous êtes à Mahagui, dans la province orientale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de la traite des enfants?
Oui, à propos de la traite des enfants, ce que je voulais dire, c'est une préoccupation que j'ai toujours enregistrée.
Oui.
Vous savez, sur les documents déclaratoires, la force réserve quelque part là où on connaît les enfants avec qui on peut voyager. Est-ce que l'officier d'immigration peut être sûr, il peut être sûr que cet enfant appartient à ses parents? C'est une préoccupation, parce qu'il arrive parfois de l'autre côté de la frontière qu'on veut chercher des enfants volés.
De quel côté s'agit-il?
Oui, par exemple, du Soudan, parce qu'il est arrivé une fois une famille de jeunes gens, et un garçon, qui venaient chercher leur enfant, soit disant qu'un enfant était arrivé avec une famille étudiante. Chaque fois qu'on a enregistré des appareils, on n'a pas eu de suite de mots.
Monsieur Malais.
Oui, merci beaucoup. Je salue aussi Rissan de Maggi. Je pense que la question qu'il pose est très pertinente. Et là, nous sommes en fait, dans la difficulté du travail des officiers d'immigration qui sont au poste frontalier.
Mmh.
Il dit que dans les passeports, les documents de voyage, il y a des endroits qui sont réservés où l'on peut inscrire les enfants. Par exemple, dans un passeport, vous pouvez, n'est-ce pas, on peut mettre aussi les noms des enfants.
Les noms des enfants, oui.
Alors, oui. Alors, un officier d'immigration qui se trouve en face de monsieur, qui a un passeport dans lequel les noms des enfants sont inscrits, avec leurs photos, je crois. Eh bien, qu'est-ce que lui fait? Il prend le titre de voyage, il regarde les papiers qu'on lui présente, et effectivement, il constate que ces enfants qui sont là sont ceux qui sont signalés dans le passeport. Donc, pour lui, tout est normal. Donc, la vigilance doit se faire plutôt en amont, au niveau des services qui délivrent ces documents de voyage. C'est à ce niveau-là que lorsque une personne vient déclarer, constituer un dossier pour les enfants, les déclarer comme étant les siens, avec intention de voyager avec. C'est à ce moment-là qu'on doit pouvoir lui demander des actes de l'état civil qui établissent
acte de naissance.
Acte de naissance, tout simplement. Donc c'est au niveau du service qui délivre les documents que l'on doit être vigilant. Maintenant, le pauvre officier d'immigration, lui, il constate tout simplement si les papiers que vous avez sont conformes à la configuration de la situation qui se trouve devant lui.
Il ne s'est pas vérifié à ce moment-là.
Non, il ne s'est plus vérifié à ce moment-là. Et voilà pourquoi il est très souhaitable qu'il y ait beaucoup de sérieux au niveau de la délivrance des titres de voyage.
Théo nous appelle d'un Bujima et au Kassai Oriental. Bonjour Théo. Bonjour Théo.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Et quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est par rapport à ce que notre invité vient de parler, le cas de faire de travaux aux enfants. Exemple, comme il a évoqué, il a dit qu'on fait ce qu'il est un bureau de contrôle, et l'enfant fait ce qu'il est ça de fin économique pour amener l'argent à des tiers.
Oui.
Mais je prends un exemple aussi, c'est le cas qui est réalisé par le parent pauvre de l'enfant. Peut-être compte tenu de la situation économique, vous savez, la situation économique que traverse notre pays. La famille n'a pas de quoi vraiment prendre en charge tous les enfants. Et il s'est dit, bon, nous avons des enfants, ils peuvent nous aider peut-être à faire ce qu'il est, telle marchandise, comme ça, à la fin de la journée, on peut avoir quelque chose pour nourrir la famille. C'est quand comme ça? Est-ce qu'on va dire c'est une infraction? Et en ce moment-là, on va tendre les parents de l'enfant en justice.
Monsieur Malher. Effectivement, là, c'est toute la difficulté de l'application de la loi sur terrain. Bon, la loi, elle, quand elle pose des principes, c'est sans considération des personnes. Elle le fait de manière objective. Effectivement, le fait de faire travailler un enfant est interdit tout simplement par la loi. Que ce soit par un tiers, que ce soit par les propres parents de l'enfant. N'est-ce pas? Il en est ainsi même de l'exploitation de l'enfant comme prostituée, etc. Même ses propres parents ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, la loi se montre plus sévère lorsque ces abus viennent des parents, parce que les parents sont censés protéger justement, être mieux placés pour protéger leurs enfants. Et lorsque un parent, n'est-ce pas, de manière flagrante, viole ce devoir-là de protection de l'enfant, la loi est même plus sévère, en plus des sanctions pénales qui sont prévues pour toute personne, pour les parents, ils peuvent même être déçus de l'autorité parentale qu'ils ont sur l'enfant. Donc la loi est encore plus sévère, d'ailleurs, avec les parents. Donc si c'est un parent qui se livre à l'exploitation économique de l'enfant, eh bien il peut être aussi sévèrement puni. Malheureusement,
on a même appris qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants à la prostitution.
À la prostitution,
vos femmes viennent pour lien limite. Ah là, bon, vous êtes alors. Donc allez chercher l'argent.
Oui, mais là où c'est dramatique, c'est à ce moment-là que j'ai raison quand même la préoccupation de M. Théo, c'est que certains parents le font parce qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Peut-être que papa travaille, maman travaille, mais leur
papa est fonctionnaire de l'État.
Papa est fonctionnaire de l'État. Maman vend des pains ou, je sais pas moi, des madeleines au coin de la rue.
Alors on n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois.
Les deux rues, mais ils n'arrivent pas à nouer, ils ne savent même pas étudier les enfants. Plutôt que de laisser les enfants assis ou à déambuler, à faire du vagabondage, eh bien, ils se disent, bon, autant aussi demander à l'enfant de contribuer à améliorer les revenus de la famille. Donc vous voyez que sur un plan pratique, il se pose un problème de contexte général dans le pays. Et voilà pourquoi, à un moment donné, le législateur a du mal à appliquer la loi. Parce que dans des cas comme ça, en sanctionnant encore les parents, vous punissez davantage l'enfant parce que vous le privez encore du petit revenu que les parents amenaient à la maison. Et ça devient
compliqué. Hein?
Ça devient compliqué.
Oui. Godefroy nous appelle des Ticouites. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Godefroy.
Oui, par rapport aux chefs d'établissement, aux enseignants qui utilisent des enfants, par exemple, on charge une bicyclette de plus de 200 kilos de bidons d'huile ou de balcons de bon goût pour aller vendre dans les mines de diamants. Et cet argent ne revient pas à l'école, mais plutôt aux individus, préfets ou enseignants. Comment on peut qualifier ce cas-là? Est-ce que ce n'est pas un détournement de la main d'œuvre qui traite des enfants?
Oui, nous sommes carrément là dans un cas typique de traite des enfants. Un tel enseignant doit être appréhendé et sévèrement sanctionné. D'abord, c'est des travaux trop lourds, parce que quand on utilise, dans certaines hypothèses rares, où il est admis d'utiliser des enfants de plus de 15 ans, il est dit qu'ils doivent être utilisés à des travaux salubres et légers. Alors, ici, nous sommes dans le cas d'un enseignant qui les utilise pour des travaux trop lourds, trop pénibles, et ensuite, les revenus, il se l'approprie exclusivement. Nous sommes donc dans un cas typique de traite. Eh bien, la loi doit lui être sévèrement appliquée.
Qui vient porter plainte dans ce cas-là?
Bon, dans ce cas-là, c'est toute personne, vous voyez la gravité de l'infraction, c'est toute personne qui est au courant, tout citoyen, a le devoir de dénoncer des actes comme ça qui sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs. Donc, c'est toute personne qui peut dénoncer, y compris l'enfant lui-même et les parents de l'enfant.
Il y a Robert Baumé à Bukavu qui nous écrit, il dit, et si la complicité du vol de l'enfant est en amont comme en aval, que faire dans ce cas?
Lorsque il y a la complicité des parents,
des parents
de l'enfant, c'est exactement ce que nous avons dit ici. Ils doivent être, n'est-ce pas, appréhendés et sanctionnés comme complices d'abord de l'infraction, mais il est prévu par la loi que de tels parents peuvent être déçus de leur autorité parentale sur l'enfant, c'est-à-dire autorité qui peut être confiée à un tiers ou à un autre membre de famille plus responsable.
Alors, toute personne qui constate ces cas peut aller porter plainte.
Absolument, absolument. C'est un devoir civique de tout citoyen de dénoncer les violations de la loi dans le pays. Et c'est ça, ce qu'on appelle la dénonciation. C'est un mode, n'est-ce pas, de saisine des autorités judiciaires qui est admis par la loi.
Aziz, on nous appelle de Bukavu. Au-dessus de vous, bonjour.
Bonjour Jodie, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour. Est-ce que vous avez un
dire?
Oui, à vous.
Ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Est-ce que la vie a été commise par un tiers? Par exemple, dans la construction des maisons, nous voyons un emploi des enfants pour l'écoulement des gaz, par exemple. Est-ce qu'il doit être fini dans ce cas ici? Est-ce que c'est le parent de l'enfant ou c'est l'employeur de, qui a engagé cet enfant-là dans cette construction? C'est ça ma préoccupation.
D'abord, le premier coupable, si on peut ainsi parler, c'est l'employeur, hein, n'est-ce pas, qui utilise cet enfant. Maintenant, l'enquête va vérifier si il a obtenu cet enfant-là auprès d'une personne qui avait autorité sur elle, c'est ce que dit la loi. Alors, s'il s'avère que les parents de l'enfant, sachant bien que l'enfant allait être exploité, eh bien, a quand même mis cet enfant à la disposition de l'employeur en recevant lui-même une part de la rémunération, eh bien, le parent aussi sera récupéré et sanctionné comme complice. Voilà.
Voilà. Donc, c'est des travaux lourds.
Hein. Donc, ça, c'est des travaux lourds qui sont complètement interdits par les codes du travail. On ne doit pas utiliser les enfants aux travaux lourds et aux travaux insalubres.
Et pourtant, on parle des enfants, c'est à quelle tranche d'âge?
Bon, en principe, en matière, dans tout principe, l'enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Mais en matière de travail, ça c'est pour l'exploitation à des fins sexuelles et autres modes d'exploitation. Mmh. Là, c'est 18 ans qu'il faut considérer comme étant le plafond à ne pas dépasser. Donc, en dessous de 18 ans, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, la personne est considérée comme un enfant.
Mmh.
Alors, mais en matière du travail, il est permis, cette capacité est ramenée à 16 ans. À 16 ans, la personne peut contracter, à condition que ce soit des travaux, comme j'ai dit, légers. C'est à moins de 16 ans que tout travail d'enfant est interdit, sauf pour les enfants âgés de 15 ans, avec autorisation de l'inspecteur du travail et des parents. Alors, en dessous de 15 ans, il n'y a aucune forme d'autorisation valable, donc là, le travail est carrément interdit sous toutes ses formes. À 15 ans, travail léger et salubre, mais avec autorisation de l'inspecteur du travail et des parents.
Mmh.
Au-delà de 15 ans, à 16 ans, l'enfant peut contracter, mais travail léger et salubre. Voilà un peu schématiquement comment la loi prévoit les choses.
Monsieur Guilhem Alain, juriste, je vous remercie.
Merci, Jody Kachama, merci à toute l'équipe de Okapi Service. Merci.